La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Grand 3. Besoin de l'adulte et autorité. Je me penche ici encore sur les représentations de l'enfance en tant que mécanisme de légitimation, en interrogeant les capacités estimées à l'enfant et son besoin supposé de l'adulte. L'enfant et le fou. Et E.T. Sur une banque internet de proverbes, j'ai fait une recherche à enfant. Une fois retirés les proverbes étrangers, ne traitant pas de l'enfance et ceux dont je n'avais pas compris le sens, il m'est resté ceci. Il y a une providence pour les fous, les enfants et les ivrognes. Les enfants et les fous sont divins, ou disent la vérité. Les fous et les enfants pensent qu'on ne voit jamais la fin de 20 ans et de 20 francs. L'enfant et le vieillard aiment qu'on les écoute. Quand on voit les enfants au marché, les marchands sont sûrs de gagner. Les enfants vivent peu quand ils ont trop d'esprit. Les enfants sont ceux qu'on les fait. On remarque que les trois premiers mettent ouvertement en parallèle les enfants avec les fous ou les folles, individus socialement reconnus comme dépourvus de raison et inaptes à l'autonomie. On peut ajouter à cette idée celui comparant enfant et vieillard, si ce dernier est associé à l'idée de sénilité. Les deux suivants mettent en avant la même image. L'enfant est un être naïf ou naïve, manquant de lucidité et de discernement. Cette analogie est courante. La Bible place sous le terme simple à la fois fou et enfant. Le code Napoléon consacrait l'incapacité juridique des femmes, des enfants et des fous, tous ou toutes considérés comme mineurs. N'est-ce pas ce même sens qui se cache derrière la notion juridique actuelle de capacité de discernement ? Bien qu'exprimé différemment et ne revêtant apparemment pas de connotation péjorative, il me semble que c'est également ce type de représentation que l'on trouve quand on présente l'enfant comme incapable de distinguer le réel de l'imaginaire.
L'adulte en devenir. L'enfant est présenté comme un adulte en devenir. Comme le soulignent tous les discours sur la création de sa personnalité, la recherche de son identité. Ici, l'adulte, qu'il soit enseignante ou parente, est présenté comme un guide qui doit accompagner l'enfant. Mais accompagner signifie orienter ses choix, ses décisions et suppose un rapport asymétrique. L'enfant est dans une position de dépendance, tributaire de l'autre. Madame Alina fait-elle même le lien entre cette représentation et les rapports d'inégalité qu'elle sous-entend? Quand je lui demande ce qui caractérise cette période de la vie où sont engagés ses élèves, elle me répond « Ils se construisent, ils se cherchent et ils nous demandent notre expérience. On est toujours effectivement quelqu'un qui est au-dessus. » En outre, il faudrait interroger le sens même de la représentation que cette citation d'un psychologue illustre parfaitement. L'enfance n'est pas un statut, c'est un état provisoire de la personne. En d'autres termes, l'enfant est une personne en devenir. Il semble ici que l'enfant ne soit pas défini par ce qu'il ou elle est, mais par ce qu'il ou elle sera, par ce qu'il ou elle s'apprête à devenir. En clair, un adulte. Mais dire une personne en devenir n'implique-t-il pas que l'on ne soit pas encore une personne? L'enfance alors ne serait que la phase de préparation, une sorte de préliminaire avant l'entrée dans la vraie vie. Cette légitimation de l'autorité par les statuts d'apprenant est particulièrement visible dans ces propos des pédagogues. Ce n'est pas le pouvoir du plus fort ou du plus rhétor, mais le pouvoir d'une personne autorisée à exercer l'autorité. À l'école, bien sûr, les élèves ne sont pas encore des citoyens. Ils ne sont pas les égaux des adultes, puisque les armes de la négociation et de la discussion, ils sont justement là pour les apprendre. La relation maître-élève est fortement asymétrique, mais si elle veut préparer la démocratie, le respect de la loi et le respect de l'autorité, elle doit distinguer et articuler deux plans. Les règles que l'école impose aux élèves, l'autorité, et les règles qu'elle leur permet petit à petit de s'imposer, l'autonomie.
Cette idée amène à considérer le rapport éducatif. Malgré certains discours, l'éducation reste conçue comme transmission unilatérale de haut en bas, du détenteur ou de la détentrice de savoir et celui ou celle qui n'est pas prêt ou prête pour affronter le monde. On peut reprendre ici le dernier des proverbes cités ci-dessus. C'est ce qu'on en fait. Sous-entendant que l'enfant est pareil à une boule de pâte à modeler si on veut en faire quelque chose. Et c'est à l'adulte de modeler. Qu'il s'agisse du parent ou de la parente en charge de préparer son enfant à la réalité de la vie, de lui donner un cadre pour qu'il, elle, puisse se développer parce qu'il, elle, a plus d'expérience, ou de l'enseignant ou de l'enseignante, détentrice ou détenteur du savoir nécessaire à l'enfant, ce que l'enfant doit savoir, a besoin de savoir, est tout entier déterminé par l'adulte et passe par lui et ou elle. Au départ, la relation parent-enfant est une relation non symétrique, où l'apport en expérience et en vécu donne licence du côté du parent à l'exercice d'un pouvoir qu'il est très aisé de consacrer par une institution hiérarchique et contraignante. C'est cette idée d'expérience qui vient légitimer l'autorité. Comme le dit Valérie, les adultes comprennent des trucs que nous, les enfants, on n'est pas censé comprendre, tandis que les enfants doivent apprendre la vie.
C'est pour ton bien. Et c'est donc tout logiquement que l'adulte prend les décisions à la place de l'enfant. Parce qu'en tant que personne mûre, responsable, finie, il ou elle a plus de lucidité sur les choses que l'enfant, encore naïf ou naïve, vivant dans un monde un peu à part, un peu coupé des réalités de la vie. C'est comme ça que les adultes fixent à l'éducation nationale ce que doivent apprendre les élèves. Que les adultes, parents, peuvent interdire telle sortie ou telle fréquentation à leurs enfants, parce qu'ils savent que ça leur sera néfaste. Et si l'avis de l'enfant concerné est contradictoire, c'est qu'il manque de lucidité, de discernement, comme le dit la loi. Ainsi, Marie a été placée à 15 ans dans un service psychiatrique sur demande de ses parents et contre sa volonté, à la suite d'une dépression. Elle m'a expliqué l'avoir vécu comme un enfermement et un abandon, qu'elle n'a toujours pas pardonné à ses parents. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle n'arrive toujours pas à dialoguer avec ses parents sur ce sujet. Eux lui expliquent qu'ils et elles ont fait ce qui était le mieux, craignant qu'elle ne se mette en danger. Quand elle considère toujours qu'ils, elles, ont eu tort et ne l'ont pas écouté, quand elle tentait de leur expliquer que l'hospitalisation était pour elle encore plus préjudiciable. Dans ce genre de cas, la parole de l'adulte est difficilement remise en cause. Le statut même de l'enfant lui donne toute crédibilité et toute légitimité. Ainsi, quand je demande à Émilie, 17 ans, si elle considère que l'enfant doit toujours obéir à l'adulte, elle me répond « C'est un adulte, il est censé savoir plus de trucs qu'un mineur. S'il le demande, c'est qu'il y a une raison. » Des représentations évoquées, aucune ne met en valeur l'autonomie de l'enfant, sa personnalité propre. Et toutes, les ou la, rendent dépendant ou dépendante de l'adulte. Le discours sur l'enfant, produit par les adultes, conjointement par le sens commun, la pédagogie, la psychologie, mettent l'accent sur son immaturité, en négligeant ses capacités, et donc sur son besoin de l'adulte en tant que référent ou référente, en tant que personne qui pose des limites, qui fixe le cadre, qui borne le chemin que l'enfant a à parcourir jusqu'à sa vie d'adulte.
4. La violence symbolique. Il s'agit ici d'évoquer à travers le concept de Bourdieu comment l'enfant accepte et entretient le rapport de pouvoir qu'il subit. M. Fize met en avant la tentation autoritaire des adolescents. 2. Ses recherches rapportent en effet que ceux ou celles-ci expriment le besoin d'une autorité pour les encadrer, fixer des interdits. Comment est-il possible de comprendre cela ? Il semble que le discours produit par l'adulte sur la faiblesse de l'enfant et ses incapacités soit largement intériorisé par ces dernières, et au-delà de ça, entretenu. Ainsi, j'ai remarqué plusieurs fois qu'en présence d'un ou une adulte référent, l'enfant s'en remettait à lui ou elle pour une activité qu'il ou elle aurait eue de façon autonome si l'adulte n'était pas là. Par exemple, lors d'une promenade en forêt, Marc, 8 ans, jouait sur un tas de bois sans la moindre difficulté. Je l'ai ensuite rejoint et nous sommes descendus ensemble. Marc ne prêtait alors absolument pas attention à ce qu'il faisait, au point que j'ai dû à moitié le porter pour éviter qu'il tombe. Il était pourtant tout à fait capable de se débrouiller, puisqu'il l'avait fait auparavant. Néanmoins, c'est lui qui m'a demandé de lui donner la main, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « J'y arrive pas ». À de nombreuses reprises, j'ai constaté des faits similaires. Un enfant veut faire quelque chose, mettre ses lacets, réparer un jouet, et avant même d'essayer, il ou elle appelle un adulte à l'aide, expliquant lui ou elle-même « Je suis trop petit ».
Dans plusieurs de ses travaux sur la domination, Pierre Bourdieu met en avant les notions de violence symbolique. La notion de violence symbolique, définie comme l'adhésion du « de » la dominée aux catégories de pensée du « de » la dominante. Le ou la dominée intègre l'image dévalorisée que lui renvoie le ou la dominante et légitime ainsi lui-même sa domination. Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles. Le propre des dominants est d'être en mesure de faire reconnaître leur manière d'être particulière comme universelle. C'est ce qui transparaît des propos d'Émilie, Pauline et Barbara, m'expliquant qu'il est indispensable qu'un ou une enseignante montre de l'autorité, sinon c'est n'importe quoi. Le discours sur la nécessité de poser des limites pour encadrer les enfants est largement repris par ceux ou celles-ci. Antoine, 14 ans, m'a ainsi expliqué qu'un ou une enseignante qui n'avait pas d'autorité, c'est-à-dire gueuler quand il faut, n'avait pas de crédibilité et ne pouvait espérer se faire respecter de ses élèves.
Au-delà de la légitimation de la nécessité du rapport d'autorité, c'est celle de l'infériorité de l'enfant qu'on trouve. Élise, 10 ans, m'explique que sa copine de classe, dont la chatte attend d'une portée, lui a dit que les chats pouvaient avoir des bébés plusieurs fois dans l'année. Elle ajoute que c'est une menteuse parce qu'un ami de sa mère lui a dit que c'était impossible. Quand je lui demande pourquoi elle croit plus cette personne que son ami, elle me répond « Bah, parce que lui, c'est un grand, il est plus intelligent. » Dans le même sens, Pauline, 17 ans, me dit littéralement « Le mineur, il est rien sans l'aide du ou de la majeure. » Par ailleurs, une des particularités du rapport entre les genres est que la femme elle-même s'approprie les rôles qui lui est désigné et les revendique. La domination symbolique se fait encore plus facilement dans les cas où l'image attribuée à la catégorie dominée est valorisante. Ainsi, l'enfant ne se perçoit pas comme oppressé, dans la mesure où ceux et celles qui détient l'autorité sur lui ou sur elle témoignent à son égard de la considération. La représentation de l'enfant, si elle contient des éléments légitimant sa mise sous tutelle, lui accorde également une place de choix dans la société comme objet des attentions de toutes et tous.
Partie 5. La naturalisation de la catégorie enfant. Dans cette dernière partie, je développe que le fondement premier de la légitimité de l'autorité est qu'elle est conçue comme naturelle, renvoyant ainsi à notre point de départ la différenciation entre les catégories. Néron explique la naturalisation, excusez-moi, des rapports entre enfants et parents par la transposition de modèles des sciences humaines et notamment de la psychanalyse articulant le développement de l'enfant sur son rapport à l'autorité paternelle au sens commun. Cette représentation sociale particulière que constitue un modèle familial dominant organise la perception de la famille en la faisant apparaître naturelle. Ce modèle articule dans une structure hiérarchique déterminée les rapports entre le père, la mère et l'enfant en donnant à chacun une place définie et spécifique. On constate en effet que dans bien des cas, les acteurs et actrices éprouvent des difficultés à expliquer l'ordre des choses, les raisons qui justifient l'existence d'un rapport d'autorité. Ainsi, quand j'insiste auprès de Valérie pour qu'elle m'explique pourquoi, selon elle, sa mère éprouve sans cesse le besoin de lui dire de faire des choses qu'elle ferait d'elle-même, elle ne trouve rien d'autre à répondre que « parce que c'est ma mère ». Les mécanismes de légitimation que nous avons abordés ci-dessus, tels que la fragilité de l'enfant, son irresponsabilité et ou son besoin de limites, sont présentés comme vérité universelle et incontestable, et non comme construction sociale ou résultat de théories particulières. À de nombreuses reprises au cours de cette enquête, particulièrement par rapport à la légitimité de l'autorité, Les enquêtés ont semblé trouver mes questions saugrenues, tant la réponse leur semblait évidente. Je me souviens particulièrement d'une fois où je demandais à un adulte pourquoi il était nécessaire de punir l'enfant, ce qu'il avait lui-même affirmé quelques minutes auparavant. Il est resté sans voix, manifestement perplexe, et puis m'a bégayé quelque chose comme « bah, parce qu'il faut bien poser les limites, je sais pas moi, comment ferait-on sinon ?»
Dans l'arrangement des sexes, Goffman explique la spécificité de la domination masculine par la valorisation des femmes. Les femmes sont une catégorie défavorisée particulière, en ce qu'elles sont les seules, parmi ces catégories, à l'exception des enfants, à être dans la société occidentale idéalisées comme des objets purs, fragiles et précieux. On peut noter en effet que, contrairement aux autres groupes socialement dominés, les enfants ne bénéficient pas d'une image négative. Ils ou elles sont considérés comme la richesse des familles, comme l'avenir de la société, et jouissent d'une attention particulière. Les enfants sont généralement objets de tendresse, d'affection, ce qui n'exclut pas l'existence d'un rapport inégal. Comme nous l'avons vu, c'est parfois au nom de l'attachement porté à l'enfant qu'on le prive d'autonomie, considérant que l'adulte, enseignant ou enseignante ou parent, est plus à même de déterminer son bien. On voit donc ici que la relation privilégiée et le rapport de pouvoir sont loin d'être incompatibles, et que c'est par des mécanismes subtils que l'intérêt de l'enfant donne la légitimation de l'exercice de l'autorité. C'est précisément ce qui sous-tend, par exemple, la notion juridique de détournement de mineur. C'est parce que le ou la parente aime son enfant qu'il ou elle veut le protéger et cherche son intérêt. Il ou elle exerce son droit d'interdire à l'enfant certaines fréquentations, allant ainsi à l'encontre de l'envie de l'enfant.
Par ailleurs, dans la préface de l'ouvrage, Zeidman met en avant l'idée de « with, then, apart », reprenant l'idée de Goffman, selon laquelle hommes et femmes, contrairement aux autres groupes antagonistes, vivent dans un rapport de proximité et non de ségrégation, ce qui est également le cas entre enfants et adultes. D'où une caractéristique spécifique du rapport. La domination n'est pas à étudier dans des pratiques discriminatoires ou des affrontements ponctuels, mais au cœur de la vie quotidienne, dans l'existence même d'une différenciation et de l'élaboration des représentations distinctes du rôle de chacun et chacune, dans la mise en scène de la catégorisation. Ce qui est éminemment problématique dans le rapport entre enfants et adultes, tout comme entre femmes et hommes, c'est le passage opéré entre une différenciation biologique minime et une différenciation sociale majeure, au point que la classification opérée par l'organisation sociale donne l'illusion d'une pleine adéquation avec la différence naturelle. Or, le simple fait que l'enfance en tant que période de la vie puisse être considérée comme construction sociale l'invalide. Un ou une individu de 10 ans pouvait être reconnu capable, au Moyen-Âge, d'activités dont il ou elle est aujourd'hui exclu en raison même de son statut d'enfant. Goffman explique que la différenciation s'opère par le biais de notre système d'identification. C'est par l'étiquetage que nous attribuons à un ou une individu le statut d'enfant, en fonction de son apparence, et que nous le ou la désignons comme tel. Il s'agit donc d'un apprentissage au cours duquel nous intégrons et nous nous approprions les catégories sociales en vigueur pour les appliquer ensuite aux situations rencontrées. Dans ce sens, l'idée d'un rapport naturel entre enfants et adultes n'est que la construction idéologique légitimant l'ordre social. En vertu de son infériorité naturelle, l'enfant, qui est soumis à un rapport de domination constant, doit se conformer, se soumettre, obéir. Les institutions d'éducation, famille, école, lui renvoient en permanence son statut de mineur.
Eh bien, on est arrivé à la fin, c'était un peu long.
Merci de nous avoir écoutés.
On se revoit prochainement.
À bientôt.
Salut. Au revoir.
Bonne journée.